VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité hors d'Afrique. L'Alliance Atlantique ne veut pas s'engager dans une nouvelle course aux armements après la fin du traité nucléaire sur les armes de portée intermédiaire ANF entre les États-Unis et la Russie, mais fera en sorte que sa capacité de dissuasion reste crédible. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN lors d'une conférence de presse au siège de l'Alliance à Bruxelles. Jens Stoltenberg a par ailleurs rejeté une proposition de moratoire de Moscou sur le déploiement des armes nucléaires prohibées par ce document de la guerre froide. Offrir un moratoire n'est pas crédible, a affirmé M. Stoltenberg, en soulignant que la Russie a déployé des missiles en violation du traité ANF et doit cesser de le faire et détruire les missiles en question. Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump a relancé le bras de fer commercial avec la Chine en annonçant jeudi qu'il allait imposer 10% de droits de douane supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnées. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a écrit le président Trump, précisant que les négociations qui ont repris cette semaine à Shanghai pour tenter de mettre fin aux différends commerciaux entre les deux pays allaient se poursuivre comme prévu. Il justifie sa décision par le fait que Pékin n'a pas tenu, selon lui, deux engagements très importants, achat massif de produits agricoles américains et coup d'arrêt aux ventes de fentanyl, un opiacé très puissant qui fait des ravages aux États-Unis et dont la Chine est l'un des principaux producteurs. Les négociations entre Américains et Chinois ont pourtant repris cette semaine à Shanghai. Les deux parties ont fait état de discussions productives et promettent de reprendre langue en septembre à Washington pour tenter de mettre fin à ce conflit.
Réaction de la Chine aux droits de douane supplémentaires. Pékin a promis ce vendredi de prendre des mesures nécessaires de représailles si le président américain Donald Trump met à exécution sa menace d'étendre ses droits de douane punitifs à l'ensemble des produits chinois importés. Les États-Unis ont gravement enfreint la trêve conclue en juin entre le président Trump et le chef d'État chinois Xi Jinping à Osaka lors du sommet du G20, a souligné le ministère chinois du Commerce dans un communiqué. Crise migratoire maintenant, le navire humanitaire Open Arms a secouru dans la nuit de jeudi à vendredi 69 migrants au large de la Libye, qui s'ajoutent aux 55 qu'il avait sauvés hier et aux 40 à bord du navire Alan Kurdi, tous en attente d'un port pour débarquer en Europe. Avec 124 personnes entassées à l'ombre de bâches tendues sur le pont, l'Open Arms, affrété par l'ONG espagnole Proactiva, a mis le cap au nord, mais sa destination n'est pas encore claire. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a signé un arrêté, lui interdisant de pénétrer dans les eaux territoriales italiennes. Idem pour l'Alan Kurdi, navire de l'ONG allemande CI, bloqué depuis jeudi au large de l'île italienne de Lampedusa, en Méditerranée centrale, avec à bord 40 migrants secourus mercredi. Conflit en Libye, nouveau combat au sud de Tripoli, la capitale, entre les forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale, GNA, et les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir la capitale. Au moins 9 combattants pro-GNA ont été tués jeudi dans ces affrontements. Un porte-parole du GNA a fait aussi état de pertes dans le camp des partisans du maréchal Haftar. Après près de 4 mois d'affrontements meurtriers, les forces pro-Haftar piétinent aux abords de la capitale, défendues âprement par les partisans du GNA, basés à Tripoli et reconnus par l'ONU. Selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats dans la région de Tripoli ont fait 1093 morts et 5752 blessés, ainsi que plus de 100 000 déplacés. En Tunisie voisine, le dépôt des candidatures pour le scrutin présidentiel anticipé dans le pays a débuté ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 9 août au siège de l'instance indépendante chargée des élections à Tunis. La présidentielle, initialement prévue en novembre, a été avancée au 15 septembre à la suite du décès du président Béji-Caïdé Tsepsi le 25 juillet à l'âge de 92 ans. Ce matin, 8 candidats ont déposé leur candidature, dont l'homme d'affaires et mania des médias, Nabil Kaoui.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Mauritanie, l'ex-général Mohamed Oulcheikh El Ghazouani a prêté serment ce jeudi, parachevant ainsi la première transition présidentielle pacifique dans ce pays, où les coups d'État ont été longtemps la règle. Au micro de notre correspondant Mohamed Diop, l'ambassadeur américain à Nouakchott, Michael Dodmond, a déclaré hier que les États-Unis ont hâte de travailler avec le nouveau président mauritanien. Le diplomate américain a aussi salué l'alternance démocratique en Mauritanie.
C'est vraiment très, très historique pour la Mauritanie et pour moi, comme l'ambassadeur américain en Mauritanie et comme un ami de la Mauritanie. C'était un vrai honneur d'être ici, non seulement pour la cérémonie d'investiture aujourd'hui, mais aussi pour l'élection et tout le processus démocratique que nous avons vu dérouler depuis ces derniers mois. Il m'a inspiré beaucoup, les discours de la présidente sortante, de la présidente élue, président Ghazouani, même aussi le discours de le président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous un sens d'optimisme pour l'avenir de la Mauritanie. Nous avons salué, et je salue encore une fois, l'administration de président Aziz et les décisions de la présidente de permettre les élections de continuer en accord avec la Constitution. Et nous saluons l'élection du président Ghazouani et nous sommes hâte de travailler fortement avec le président Ghazouani sur les questions importantes pour les deux pays, l'économie, la sécurité et les droits de l'homme.
L'ambassadeur américain à Nouakchott, Michael Dodmond, propos recueillis par notre correspondant Mohamed Diop. Afrique centrale maintenant, Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Deux nouveaux cas de contamination virus Ebola en 24 heures à Goma, chef-lieu de la province du Nord, Kivu. Et deux décès aussi. C'est la psychose qui s'installe. La frontière avec le Rwanda a été fermée plusieurs heures hier, même si Kigali a démenti toute fermeture. Le point avec Jean-Roger Bion.
Un an après l'apparition du virus dans le Nord Kivu et une quinzaine de jours après la détection du premier cas à Goma, trois membres d'une même famille ont été touchés par l'épidémie. Après le père empailleur décédé mercredi, une de ses filles âgée d'un an et sa femme ont été testées positives. Jeudi matin, le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC avant de la rouvrir en début d'après-midi. Pendant quelques 8 heures, les Congolais n'ont pu aller à Gisenyi, frontalière de Goma. L'épisode a irrité Kinshasa qui a estimé que c'était à l'encontre de la recommandation de l'OMS sur la libre circulation des personnes. Cependant, Kigali a nié toute fermeture de frontières. Dans la province voisine du Sud Kivu, une femme proche de l'orpailleur a été mise en quarantaine avec 14 autres personnes. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a déclaré que les tests effectués sur ces 15 suspects se sont révélés négatifs. L'épidémie, qui a fait plus de 1810 morts et touché plus de 2700 personnes, a été élevée par l'OMS au rang d'urgence sanitaire mondiale.
Au Cameroun, le leader des séparatistes anglophones, Julius Ayuk Tabe, a entamé une grève de la faim depuis la prison de Yaoundé pour protester contre ce qu'il qualifie de disparition de co-détenus après les mutineries dans deux pénitenciers. Plus de détails avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Maître Joseph Fou, membre d'un collectif d'avocats qui défendent les séparatistes, Julius Ayuk Tabe et 9 de ses partisans ont cessé de s'alimenter pour une durée indéterminée. « Nous portons à votre attention notre décision de manifester par une grève de la faim », a écrit mardi M. Ayuk Tabe dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Laurent Esso. Dans ce document, les grévistes disent ainsi protester contre la disparition de leurs compatriotes de la prison centrale de Yaoundé et de celle de Boya après les récentes mutineries ont secoué ces deux prisons. Les détenus anglophones demandaient d'être traduits en justice et l'amélioration de leurs conditions de détention. Après ces incidents, le gouvernement a annoncé l'arrestation des 177 personnes qui ont été transférées ailleurs. Une rumeur faisant état de présumés actes de torture ayant entraîné la mort de Mancho Bipsi, un des leaders anglophones, a circulé sur les réseaux sociaux avant d'être démenti par le gouvernement. Selon Yaoundé, 45 personnes, dont 43 détenus, ont été blessées et 20 protestataires arrêtés.
Et pour terminer, au Soudan, poursuite des négociations entre le Conseil militaire au pouvoir et les leaders de la contestation sur un accord de transition. Les généraux dirigeant le pays ont annoncé ce vendredi l'arrestation de 9 membres des forces de soutien rapide RSF pour la mort de jeunes manifestants tués par balle. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.